dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grünwald.
Salut à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle balade. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur France Bleu, dans le rétro, c'est un voyage dans le temps avec un invité. Pendant une demi-heure, on revient sur sa carrière, sa vie et parfois ses combats. Aujourd'hui, une journaliste d'investigation qui n'a pas envie de plaire à tout le monde. Mission réussie, elle ne laisse personne indifférent. Longtemps présentatrice du 19-20 sur France 3 et du 13h sur France 2, elle est désormais à la tête de Cache Investigation et Envoyée Spéciale. Bonjour Élise Lucet.
Bonjour.
On vous retrouve tous les jeudis pour Envoyée Spéciale sur France 2. Depuis septembre, nouvelle formule, plus de proximité, plus de rencontres aussi et plus d'immersion. C'est que l'émission, elle avait besoin d'évoluer.
Bon, on a toujours besoin d'évoluer, le monde bouge et une émission de télévision qui s'appelle Envoyée Spéciale, par définition, elle doit coller au monde. Donc, comme le monde bouge beaucoup, on avait aussi, nous, envie de bouger. Moi, c'était une envie profonde que j'avais, parce que je ne suis pas une femme d'intérieur, je suis plutôt une femme d'extérieur.
On l'a compris.
Oui. Donc, voilà, être enfermée dans un studio, ça m'allait moyennement, même si j'ai énormément de respect pour tout ce que l'émission a été avant moi. Mais c'est vrai que j'avais cette envie de sortir sur le terrain, d'être plus proche des gens, plus proche des citoyens, de les entendre, de les faire parler dans l'émission, qu'ils s'approprient l'émission du fait qu'on soit, nous, juste à côté d'eux.
Pour le premier numéro de la rentrée, le sujet, c'était le plastique. Mmh. Ce sera quoi le prochain sujet d'Envoyé spécial, donc qui sera diffusé jeudi prochain?
Oui, tout à fait, le jeudi 10 octobre. En fait, on a fait une contre-enquête sur l'explosion au gaz de la rue de Trévise. Pour être tout à fait honnête avec vous, après cette explosion, on a reçu beaucoup de témoignages, notamment de gens qui travaillaient pour GRDF, Gaz de France, nous disant qu'il y avait des soucis dans l'entretien des conduites de gaz. Et bien sûr, ça nous inquiète un peu tous. Donc on a fait une vraie contre-enquête à la fois sur cette explosion de la rue de Trévise, qui a fait à l'époque 4 morts et 60 blessés. C'était il y a 8 mois, un peu plus de 8 mois. Puis on a aussi deux autres sujets. Un sur le crédit social en Chine.
Moi, alors expliquez-nous ce qu'est le crédit social, c'est hallucinant.
Oui. En gros, ça veut dire que les citoyens sont espionnés, surveillés par des caméras à reconnaissance faciale partout dans les rues de certaines villes de Chine. Et ensuite, en fonction de leurs actions mauvaises ou bonnes, on leur distribue des points. C'est-à-dire une bonne action égale des points en plus, une incivilité égale des points en moins. Le problème, c'est que quand vous avez des points en moins, ça peut énormément influer sur votre vie, puisque vous pouvez par exemple ne plus pouvoir contracter un crédit, ne plus pouvoir prendre le train, ne plus pouvoir prendre l'avion, ne plus pouvoir mettre vos enfants dans une crèche. Donc c'est un jugement instantané de chaque citoyen. C'est ça que nous avons essayé de filmer. Et ensuite, c'est la surveillance de notre équipe de télévision qui s'est retrouvée dans la même situation que les citoyens chinois. Les données des deux téléphones portables de notre reporter ont été vidées à distance. Elle a perdu toutes ses photos, toutes ses vidéos. Elle l'a vu sous ses yeux, ses téléphones se vider.
C'est incroyable.
Mais
ça,
c'est complètement fou. On était dans un film d'espionnage et elle a dû quitter la région. Elle a ensuite continué à tourner cette fois à Pékin, mais alors en se délestant complètement de tous ses objets informatiques parce qu'elle savait qu'elle était suivie, pistée par ses différents ses deux portables et son ordinateur.
Vous pensez que ça peut arriver dans d'autres pays ?
Écoutez, on a invité Jean-Gabriel Ganassia qui travaille au CNRS et qui s'intéresse énormément justement à cette nouvelle technologie et qui nous dit, bah, réfléchissez un peu, en fait... Bien
on
sûr,
déjà un peu.
C'est pas aussi caricatural qu'en Chine, mais vous notez, vous, tout le monde, moi aussi, le chauffeur Uber, le magasin de pizza, votre médecin, et vous êtes noté vous-même.
C'est plus vicieux.
Donc
quoi, en
on
fait.
Est dans un Black Mirror où on est dans un crédit social qui est plus en fait fait par les grandes entreprises privées que par les États, donc en soi c'est plutôt rassurant, mais les grandes entreprises nous notent déjà. Donc on ne se rend pas compte, mais on est déjà dans une société de la notation extrêmement forte. Même si, à la différence de la Chine, et c'est une différence importante, ça n'est pas l'État qui nous note.
Quelle est la différence entre Cache Investigation et Envoyé Spécial? Parce que là, de ce que vous nous expliquez, pour Envoyé Spécial, c'est très similaire à la formule Cache Investigation.
Non, parce que Cache Investigation, c'est vraiment un seul et même sujet pendant 2 heures. Et ensuite, on est vraiment dans une enquête au très long cours, c'est-à-dire qu'un Cache Investigation, ça prend 1 an d'enquête minimum. Ensuite, il y a beaucoup de révélations. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans Envoyé, parce qu'il y en a aussi. Mais plus vous faites une enquête longue, plus vous avez la possibilité d'avoir des documents confidentiels, des gens qui vont sortir du bois. Donc, c'est des enquêtes qui sont monothématiques pour Cache Investigation. Envoyé Spécial, ce sont des enquêtes qui sont parfois assez longues. Hein. Ça peut durer 6 mois, mais c'est quand même moins long. Et puis, c'est sur des formats très différents. C'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même, on peut très bien faire Ma vie sans plastique. Mmh. On peut très bien faire le crédit social en Chine, la contre-enquête sur l'explosion au gaz de la rue de Trévise. Ou alors, Il change le monde. C'est une nouvelle rubrique qu'on a mise en place. Il change le monde, ce sont des gens dont on se dit qu'ils sont très inspirants aujourd'hui, parce que, bon, c'est pas ultra enthousiasmant ce qui se passe, notamment environnemental. Et là, il y a plein de gens qui sont en train d'inventer des nouvelles formes de vie pour lutter justement contre le réchauffement climatique, le gaspillage.
Et de transformer nos modes de vie, finalement.
Voilà.
Aussi,
et puis, dans les nouveaux formats, il y a aussi Ma vie 2. Là, on a fait ça avec Guillaume Néry. On a fait Ma vie d'apnéiste avec Guillaume Néry. Jeudi prochain, vous aurez Ma vie de sauveteur en mer, parce qu'on a tous été très bouleversés par le drame de la SNSM. En juin dernier, où il y a eu 3 morts. Et donc, on a, à un moment, confié une caméra à un sauveteur de la SNSM qui se filme lui-même, qui filme un sauvetage et puis qui nous raconte sa vie et pourquoi il est devenu sauveteur de la SNSM. Donc, c'est très intéressant d'entendre ça de l'intérieur, de l'entendre lui raconter sa propre
d'être
vie.
D'être en immersion, finalement.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, vous voyez, c'est assez différent.
Je me trompe peut-être, mais on a l'impression depuis pas si longtemps, en fait, de vous découvrir tel que vous êtes réellement.
Ben c'est sympa. Moi,
vous vous en rendez compte de ça ou pas?
Pas du tout, parce que moi j'ai toujours été la même. Après, c'est vrai que je faisais une émission d'investigation sur France 3 qui était plus confidentielle, parce que c'était à 23h30. Là où c'est vrai, c'est que je pense aujourd'hui, moi, et je suis pas la seule à le penser, que les citoyens nous demandent un journalisme d'engagement. Et je parle pas d'engagement ni politique, ni auprès d'une association, d'une ONG ou ce genre de choses. On n'est pas des militants. Ouais. En revanche, ils nous demandent de mouiller la chemise. C'est-à-dire de pas être de simples commentateurs derrière un micro en train de dire blablabla, voilà ce qui se passe, c'est le président de la République. Aujourd'hui, les citoyens, ils ont envie de transparence, ils savent qu'il y a vraiment des campagnes de communication ou commerciales ou politiques, ils ont envie de savoir ce qui se passe derrière. J'ai pas le sentiment d'avoir changé pour répondre à votre question, parce que j'ai toujours eu ce côté un peu franc-tireur et à se dire mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Ça m'a toujours beaucoup intéressée, mais ça se voit plus et peut-être que je l'assume plus.
C'est incroyable aussi votre cote de popularité.
Oui, mais parce que je pense qu'ils sentent cet engagement-là. Ils sentent qu'il n'y a pas de mensonge. Ils sentent que, justement, quand je suis avec mes équipes de Cash Investigation ou d'Envoyé Spécial, Emmanuel Gagné, Sophie Le Gall pour Cash Investigation, Sébastien Vibert et Séverine Lebrun pour Envoyé Spécial et puis tous nos reporters, voilà, on y va. On n'hésite pas, on est service public. Et voilà, s'il faut déranger une grande marque, on n'hésitera pas. S'il faut déranger un ministre, on n'hésitera pas. S'il faut déranger le président de la République, on n'hésitera pas. Il faut saluer quand même là-dessus, vraiment la liberté totale que nous laisse le service public, en l'occurrence Delphine Ernotte, aujourd'hui, de pouvoir mener ses enquêtes jusqu'au bout. Croyez-moi, c'est pas le cas ailleurs. Quand vous avez des annonceurs qui disent clairement on va enlever des énormes séquences de pub sur les chaînes du service public et que ma présidente me regarde droit dans les yeux et qu'elle me dit allez-y Élise, continuez. Bon, bah ça s'appelle de la liberté. Et la liberté éditoriale, ça n'a pas de prix. Mais voilà, on est dans cette possibilité-là aujourd'hui avec une grande liberté, ce que n'ont pas forcément nos confrères du privé.
Cash Investigation, le prochain, c'est quand ? Vous n'allez pas pouvoir me le dire.
Et non.
C'est très secret.
Non, oui, c'est vrai qu'on garde à la fois les dates de diffusion et les sujets qu'on aborde très secrets. Et moi qui me suis tant battue sur le secret des affaires, je vais vous dire là, secret des affaires.
Bon alors, Envoyé Spécial, on sait par contre que c'est tous les jeudis à 21h05 sur France 2.
Oui,
quand il
n'y
a pas de sport,
quand il
n'y
a pas d'émission politique.
Voilà, politique.
Non, parce que là, émission politique avec les municipales, il va y en avoir quand même pas mal et c'est tout à fait normal.
Élise Lucet, vous êtes prête à démarrer notre voyage dans le temps? Ne me regardez pas comme ça, hein.
Wouhou!
Vous n'avez plus
Allez,
le choix.
Allons-y.
C'est parti. Vous naissez le 30 mai 1963 en Seine-Maritime, à Rouen. Votre mère est directrice d'école, votre père est prof à l'université, chanteur et poète.
L'institutrice de notre classe ne vous laisserait pas de glace.
Bon bah voilà, hein, ça c'est lui, Michel Lucet. Ça vous fait quoi d'écouter ce titre?
J'adore, c'est toute mon enfance. Moi j'ai été baladée avec mon père qui écrit toujours et qui chante toujours aujourd'hui. Hein. Ça qui est incroyable.
Il a ses petits fans, hein, j'ai vu, il y a des forums.
Mais oui. Et il y a encore pas très longtemps, je suis allée à un concert et j'ai emmené ma fille qui a 12 ans voir son grand-père. Elle était complètement scotchée en disant, en fait, Babou, t'es une star.
C'est mignon.
Et c'est vrai, enfin, moi ce qui a été génial, c'est vivre dans une famille où mon père était tout le temps en train d'écrire des chansons, jouer avec les mots, il y avait des musiciens qui venaient à la maison, on allait l'écouter en concert. Bon, c'est une vie super.
Votre fille qui dit à son grand-père « Babou, t'es une star », est-ce qu'elle dit la même chose de sa mère ?
Oui, mais ça l'embête un peu. En fait, elle en a marre qu'on me reconnaisse dans la rue et elle me dit de temps en temps, oh, j'aimerais bien changer de mère quand même, en rigolant, mais elle aimerait bien de temps en temps que sa mère soit vendeuse dans un magasin et qu'on me reconnaisse pas dans la rue et qu'on puisse aller faire des emplettes toutes les deux sans...
Ça, c'est pas possible.
Non, à l'étranger, oui, mais en France, non.
Ouais.
Non, mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. Ouais. Après, je peux comprendre que ma fille en ait un peu marre de temps en temps. Ça, je peux comprendre.
Élise Lucet, on va revenir dans un instant. On va continuer notre voyage dans le temps pour la suite dans le rétro. Dans le rétro sur France Bleu avec Élise Lucet, journaliste incontournable de France Télé, rédactrice en chef et présentatrice d'Envoyé spécial le jeudi soir sur France 2 et de Cache Investigation.
Dans le rétro.
Bienvenue.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Allez, on rappuie sur ce bouton magique pour enclencher la télétransportation. Alors, je vous propose d'ouvrir cette porte juste là. Vous avez 14 ans. Nous sommes dans le salon, assise à vos côtés, votre maman qui regarde la télé.
Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée.
C'est la journaliste Christine Krent. Elle trouve que c'est une femme formidable et vous lui dites « Mais maman, un jour, je serai à sa place ».
Oui.
Mission réussie, finalement.
Oui. Mais alors, moi, j'ai aucun souvenir de cette phrase. C'est ma maman qui me l'a racontée, comme elle ne me ment jamais.
Évidemment, une maman ne ment pas.
Jamais à ses enfants, en tout cas. Je pense qu'en fait, elle était tellement admirative de Christine Krent que je ne rêvais que d'une chose, c'est qu'elle soit autant admirative de moi.
Et elle l'est ?
Oui, elle l'est. Je crois que c'est ma première fan.
C'est vrai ?
Ah oui. Et puis, alors, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui s'informe énormément. Donc, je pense que si elle avait été de ma génération, elle aurait volontiers été journaliste. Elle ne me l'a jamais dit. Mais moi, vu son intérêt des autres, je pense qu'elle aurait été une excellente journaliste.
Elle vous débriefe après
les
émissions ?
Ah oui, complètement. Ça, j'ai aimé. Ça, j'ai pas aimé. Ça, c'était formidable. Comme toutes les mamans, elle est beaucoup plus sur ça, c'était formidable. Mais elle peut être aussi, de temps en temps, je pense, objective et dire ce qu'elle pense quand elle pense que c'est moins réussi. Donc, bien sûr, elle regarde sa fille, mais elle regarde plein de choses.
Christine Krent, vous l'avez rencontrée ou pas ?
Bien sûr, oui. Et Christine sait très bien que j'ai dit ça à ma maman. La première fois où ça a été sorti dans la presse, je pense que... Elle a moyennement apprécié parce qu'il y avait une différence de génération entre nous et que de fait ça le soulignait. Mais elle a toujours été adorable avec moi. Elle a toujours été très confraternelle ou je sais pas comment on dit consœurternelle.
Je sais pas.
Parce que après tout maintenant il faut commencer.
Il faut faire attention.
Voilà, il faut commencer à inventer des mots féminins aussi. Elle a toujours été très bienveillante.
Avant de vous lancer dans cette carrière de journaliste, faut passer par la case études.
Oui.
Vous ça. Pas duré très longtemps, je crois.
Non, parce que j'étais entourée de maman directrice d'école, papa prof de fac, ma sœur qui avait 2 ans d'avance à l'école, donc je pense que j'ai voulu faire mon intéressante. Et j'avais envie d'apprendre le monde, mais pas dans les livres. J'avais envie de l'apprendre
sur le terrain,
en vrai, de rencontrer les gens. Donc je suis partie très vite quand j'étais en fac, vivre au Canada anglais. Je suis devenue bilingue grâce à ça. Ma formation à moi, c'était une formation sur le terrain plus que. Encore une fois, je suis plus une femme d'extérieur que d'intérieur.
3 semaines donc à l'université de Caen.
Non, c'est enfin, on va dire que la première année, j'ai énormément séché, j'ai passé plus des diplômes de baby-foot ou de flipper.
C'est pas mal, ça peut servir aussi parce que ça peut créer des liens.
Voilà. Et la deuxième année, effectivement, j'ai passé mes UV, mais en fait, en étant partie au Canada, je suis rentrée juste pour passer mes examens en rentrant. Je me souviens quand j'ai commencé à France Bleu, j'avais à peine 20 ans, je venais de les avoir.
Chut. On va aller faire un tour justement à France Bleu. Nous sommes en 1983 dans votre petit R5, pas loin de Caen. Vous partez en reportage pour Radio France.
Ouais.
C'est le début finalement de l'aventure. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez trouvé votre voie ?
Ah oui, complètement. Grâce à quelqu'un qui est toujours à France Bleu à Caen, qui s'appelle Francis Gauguin. Salut Francis, que j'adore. Il va se reconnaître immédiatement, le Gaulois de Radio France Normandie-Caen, et qui m'a formé, mais alors vraiment très bien, avec d'autres gens qui étaient dans la rédaction, Régine Godard, Thierry Géfrotin. Enfin, il y avait une rédaction, moi je trouvais qu'ils étaient très vieux, parce qu'ils avaient 30 ans quand même. Hein. Moi j'en avais que 20.
Wow. Ouais.
Et je l'ai trouvé, mais alors vraiment, et un peu sévère, mais ils m'ont super bien formé. Et oui, très vite, vocation au bout de... 10 jours, je me suis dit, oula, ça m'intéresse beaucoup ce métier-là. Dès qu'on commence à avoir des a priori sur quelque chose, en fait, on va rencontrer un PDG, un syndicaliste, un footballeur, un artiste, un député. Et donc, hop, ça vous oblige à vous remuer les méninges, à vous remettre en question. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, on va quand même pas m'offrir la possibilité de faire ce métier-là qui est si passionnant.
Eh ben si.
Eh ben si. Et puis une carte de presse, c'est le plus beau des passeports, parce que vous rentrez partout.
Vous bossez ensuite pour FR 3 camps et vous quittez la Normandie. Destination Paris, pour vous, c'était une nécessité pour faire votre métier que de venir à Paris ?
Vous savez, c'est toujours des histoires d'opportunités, de rencontres. Ouais. Donc moi, j'ai commencé à faire des contrats à Radio France un peu partout, à Besançon, à Toulouse, tout ça. Puis on m'a proposé un remplacement à Paris, à la Maison de la Radio. Et là, j'ai compris que j'avais aussi envie de faire de la télé. J'en avais déjà fait un petit peu. Et j'ai ripé sur d'abord Canal+, puis ensuite France 3. Mais Paris, moi, j'ai jamais été une grande parisienne.
Est-ce que vous trouvez pas justement qu'il y a un fossé qui se creuse entre Paris et le reste de la France, de plus en plus dans les médias? Est-ce que vous trouvez pas qu'on fait un peu trop de parisianisme?
Si, mais après, bon, on combat. Hein. Enfin, je vois, nous, par exemple...
Peut-être.
Ah ouais, mais à Envoyé Spécial, on fait super attention. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus souvent le reflet réel de la France quand on va tourner en région, et non pas en province, comme on dit ici à Paris, mais quand on va tourner en région, que quand on tourne à Paris. Paris, c'est une bulle, mais comme toutes les capitales, je pense qu'il faut pas en vouloir aux Parisiens. Les Londoniens sont pareils, les gens qui habitent à Berlin, à Rome, c'est un peu...
C'est pas des gens que je parle, mais c'est vraiment de la profession.
Oui. Ah, bah, la profession, alors peut-être encore plus si les gens n'ont jamais travaillé en région. Mais je crois que là, ce qui s'est passé, de vous à moi, hein, sur les Gilets jaunes, c'est un sacré rappel. Donc si les journalistes, et je me mets dans le lot, n'ont pas compris qu'à un moment, ils s'étaient, pour certains d'entre eux, totalement coupés du pays, et pour peut-être la plupart d'entre nous, un peu coupés du pays, bah, c'est qu'ils n'ont rien entendu.
Vous arrivez donc à Paris pour continuer votre métier. Vous présenterez donc le 19-20, d'abord en duo et ensuite en solo. Vous devenez aussi rédactrice en chef. On vous confie de nouvelles émissions, des soirées électorales aussi, puis pièces à conviction. Là, on vous découvre journaliste d'investigation. J'ai retrouvé une photo.
Oui.
C'est deux de vos confrères.
Ah oui, à Hervé Guéquière, Stéphane Taponi. Eh oui, ça c'est...
Ils ont été retenus en otage pendant un an et demi en Afghanistan. Ils étaient en train de réaliser un reportage pour pièces à conviction. Oui. Comment vous le vivez ça?
Alors ce jour-là, très bien, parce que ça c'est leur arrivée à Villacoublay quand ils sont libérés. Les un an et demi précédents, très mal. Parce que quand vous êtes rédactrice en chef d'une émission, et je n'étais pas seule, hein, on était une équipe de 4 personnes, que vous avez envoyé 2 reporters en Afghanistan et que vous apprenez très rapidement qu'ils sont pris en otage et qu'à partir de là, vous avez quasiment pas d'informations sur l'endroit où ils peuvent être. Vous savez très bien qu'ils sont dans des conditions de détention compliquées. Je peux vous dire qu'à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, que vous mangez et que vous dormez, vous vous posez la question de savoir si eux peuvent boire, manger et dormir. Savoir s'ils sont torturés, savoir dans quelles conditions ils vivent. C'est des choses auxquelles vous pensez à longueur de temps. Avec un sens de la responsabilité réelle, parce que c'est nous, entre guillemets, qui les avons envoyés là-bas, donc une culpabilité aussi. Beaucoup d'inquiétudes. Et quand ils sont enfin revenus, une sorte de... Moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais 2 tonnes de plomb sur les épaules. En fait, le jour où ils sont revenus. Et je me souviens très très bien de moments où j'étais chez moi et où je regardais par la fenêtre et où je me disais, le seul truc qu'on a en commun, c'est la lune. Ils la voient, moi je la vois.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit en vous retrouvant?
Alors moi, c'était assez fou parce que non seulement je l'ai retrouvé, mais en plus, je faisais le direct. C'est-à-dire que la première chose que je leur ai dite, c'est que je les ai embrassés. Mais la première chose que j'ai faite, c'est que je leur ai posé une question de journaliste. Parce qu'on était en direct à l'antenne. Et puis après, on s'est retrouvés dans notre tout petit bureau de pièces à conviction. Et là, je me souviens très bien d'un moment où Hervé, je ne sais plus pour quelle raison, parce qu'ils allaient à l'Élysée ou je sais pas quoi, a changé de chemise. Et là, je me souviens d'avoir vu sa maigreur. Et ça, c'était en fait le premier moment qu'on avait ensemble, juste...
Intime.
On était 5 ou 6 dans la pièce. Et puis, on s'est parlé pour de vrai à ce moment-là. Et avec beaucoup de pudeur, parce que c'était pas le genre à se plaindre, ni Hervé, ni Stéphane. Mais voilà, beaucoup de pudeur. Et en même temps, on a, je pense, là, compris à quel point ils avaient souffert dans leur chair.
Donc, eux travaillaient sur pièces à conviction.
Oui.
Il y aura aussi Cache Investigation, Envoyé Spécial, Élise Lucet. Certains vous détestent, vous et vos méthodes parfois hardcore. D'autres, au contraire, vous encouragent et vous adorent. On va essayer de comprendre ce qui suscite ces réactions. On revient tout de suite sur France Bleu. Bon week-end à vous qui nous écoutez. Vous la retrouvez tous les jeudis soirs pour Envoyé Spécial sur France 2. La journaliste Élise Lucet est avec nous.
Dans le rétro.
Bienvenue.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
En 2005, vous quittez France 3 pour faire le 13h de France 2. Quand on est une journaliste qui aime le terrain, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sous les lumières d'un plateau de télé tous les midis?
J'ai adoré cette effervescence du direct, de gérer à la fois les journaux tous les jours, les émissions spéciales, parce que je me suis retrouvée à en gérer beaucoup, à la fois le 11 septembre 2001, mais aussi les attentats, enfin des choses de ce style. Vous êtes à l'antenne pendant 6 heures, pendant 8 heures. Mais c'est important parce qu'on sent battre le pouls d'un pays, puis même parfois du monde. Après, moi, ça ne m'a jamais suffi. C'est-à-dire que cette instantanéité de l'info qu'on fait de manière quotidienne et dont on sait très bien que le lendemain, il faudra recommencer, le surlendemain, recommencer. Et donc, on peut difficilement fouiller les sujets, même s'il y a de très bons sujets dans les éditions quotidiennes. Hein, parce que maintenant, il y a des dossiers. Mais j'ai toujours eu cette envie de faire du magazine en plus de ça. Et je me souviens très bien être allée voir mon patron de la 3, des programmes de la 3, en lui disant, si tu veux que je continue le JT, il faut me donner un magazine à côté, parce que sinon, je vais trop vite m'ennuyer. Enfin, pas m'ennuyer au sens, je ne m'ennuyais pas, mais je vais très vite être frustrée de ne faire que du quotidien. Donc je remercie mes patrons de m'avoir offert ce luxe.
On va partir en 2015 maintenant. Vous essayez tant bien que mal d'interroger Rachida Dati pour Cache Investigation.
Bonjour Rachida Dati, Élise Lucet, France 2. Vous voulez pas nous parler ? Bonjour. Vous êtes sous le coup d'une enquête parlementaire et soupçonnée de conflit d'intérêts avec GDF Suez. Qu'est-ce que vous avez
à répondre ? Des accusations à la con, vraiment ? Des accusations à la con,
vraiment
des
répondez-nous, on veut absolument avoir une réponse.
Devant nous, un rempart de vigile. L'interview n'aura pas lieu.
Madame Dati, vous êtes élue, vous devez défendre l'intérêt général, donc on veut savoir si vous défendez des intérêts privés. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement.
Oh, j'ai pas peur de vous,
ma pauvre. C'est pas nous, les Blancs.
Acceptez une interview.
Non, mais quand je vois votre carrière pathétique.
J'ai pas peur de vous, ma pauvre fille, quand je vois votre carrière pathétique.
Oui, je pense qu'en fait, ce qui l'a fait réagir, c'est le mot, enfin la phrase « qu'est-ce qui vous fait peur ?» Parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la fuite devant nous. Moi, j'aime pas, je vais vous dire, très franchement, j'aime pas courir après les gens comme ça. C'est pas dans ma nature.
Pourtant, vous le faites souvent. Hein.
Oui, mais non, pas si souvent que ça. Regarder les émissions les unes après les autres, franchement, de moins en moins souvent. Et tant qu'on peut ne pas le faire, franchement, je préfère. L'idée, c'est de faire des interviews à la loyale. C'est-à-dire d'avoir une heure d'interview dans un bureau, argument contre argument, question argumentaire de la personne interviewée. Moi, c'est ce que je préfère le plus. Nous, on a fait notre travail journalistique. Eux, ils font leur travail de politique ou de patron d'entreprise. Et c'est dans ces conditions-là que le téléspectateur comprend le mieux ce qui se passe. Quand il faut en arriver à ça, parce que Rachida Dati, avant d'en arriver là, on lui a proposé des interviews calmement posées dans un bureau 18 fois. Mais 18 fois, elle a refusé. Donc moi, je suis toujours déçue quand on en arrive à ce genre de choses. Après, sa réaction, je pense qu'il y a parfois, des gens qui sont ou des responsables politiques ou des responsables économiques qui se sentent intouchables. Et donc, quand on va vers eux pour les interpeller comme ça, en leur posant une question, ça les dérange. Ça dérange
c'est ce qu'on a ressenti, de
l'ordre
toute façon.
Naturel de fonctionnement de la société. Ils sont pas habitués. Et voilà, ils supportent pas ce genre de choses.
Pourquoi diffuser un passage comme ça ? Parce que finalement, elle répond pas. Elle part. Vous n'avez pas la réponse à vos questions. Est-ce
non,
que
mais
c'est
parce
essentiel
que
de diffuser pas, ça ?
Je pense que ça l'est à un moment pour signifier quel est le niveau de refus de réponse. Là où vous avez raison, c'est que en gros, on sait qu'il n'y aura pas de réponse, mais que ça montre jusqu'où on peut nous donner toutes les possibilités du débat contradictoire, parce que c'est important de donner la parole.
Et que finalement, eux restent fermés malgré les tentatives.
Et que finalement, malgré tout, eh ben c'est une fin de non-recevoir.
Il paraît que vous évitez d'avoir certaines conversations au téléphone, vous avez des ordis cryptés, vous êtes parano depuis que vous faites Cache Investigation.
Non, je vais vous dire très franchement, j'ai pas d'ordi crypté, c'est juste qu'il y a certaines conversations téléphoniques qu'on a dans des pièces où il n'y a ni ordinateur ni téléphone.
Ouais, vous faites super attention. Ouais.
Non mais, si vous voulez, il y a un seul truc qu'on ne peut pas pirater, c'est votre cerveau. C'est tout. Donc à un moment, quand on se parle en tête à tête dans un bar et qu'on a laissé tous nos téléphones portables ailleurs, et ben
vous
voilà.
Laissez quand même les téléphones portables ailleurs.
Ah
quoi.
Oui, ça peut arriver. Attendez, c'est pas tous les jours. Mais oui, ça peut arriver.
Est-ce que vous pensez que vous êtes en danger parfois, Élise Lucet ?
Non, on n'est jamais en danger. Enfin, très franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est en France. Je n'aimerais pas faire le métier que je fais dans certains pays. Et j'ai beaucoup d'admiration pour des lanceurs d'alerte ou pour des reporters qui font leur métier dans ces pays où ils prennent de réels risques. Ne commençons pas à jouer au cow-boy de l'info et en disant « Oh, Madame Lucet, vous prenez des risques, c'est dangereux pour vous ». Enfin, franchement, je ne le pense pas. On est dans une démocratie, on est dans un pays où on a le droit d'enquêter, on a le droit d'informer. Voilà, et puis je ne suis jamais seule, je suis toujours, quand je suis sur le terrain, en tout cas avec mes équipes.
Vous arrivez à obtenir des choses très confidentielles, est-ce que vous payez vos informateurs ?
Jamais.
Ah ouais, jamais ?
Non, jamais. Règle numéro 1, ne jamais payer ses informateurs. Règle numéro 2, toujours protéger ses sources. Ne jamais révéler leur nom, les protéger. Quand vous disiez par exemple qu'on a
justement, les protéger, c'est quand même qu'il y a un danger. Alors pas forcément physique, mais il y a quand même un danger potentiel.
Ah bah bien sûr.
On est sur des terrains minés quand
mais
même.
Bien sûr, certains peuvent perdre leur travail, se retrouver avec des procès extrêmement lourds et perdre énormément d'argent sur des lanceurs d'alerte. Oui, c'est, ça peut bouleverser leur vie.
Vous les protégez comment ?
Alors l'idée étant que leur identité ne soit jamais révélée. Donc ça veut dire que par exemple dans les documents on n'écrit jamais leur nom, on n'écrit jamais leur numéro de téléphone, on n'écrit jamais leur mail, on va leur donner des faux prénoms, on parle d'eux comme ça entre nous, puis on fait très attention à les protéger réellement. Protéger ses sources, c'est protéger des gens qui ont accepté de se mettre en danger pour faire émerger la vérité. Et ça, on ne rigole pas avec ça. Je suis très admirative moi de ces gens, très très admirative. Quand vous voyez ce qui est arrivé à tous les lanceurs d'alerte dernièrement, ils ont quasiment tous perdu leur boulot, leur vie a été bouleversée, ils sont poursuivis en justice. La plupart d'entre eux, quand ils étaient mariés, ont divorcé. Ils ont fichu leur vie en l'air pour faire émerger la vérité. Chapeau bas.
Chapeau Vous le feriez bas.
Je pense que je le ferais, mais disons que je suis... Maintenant, on informe, nous aussi, les lanceurs d'alerte, de ce qu'ils risquent. Beaucoup, on leur dit. On leur dit. Mais il y a aussi des lois qui sont passées pour beaucoup plus les protéger. Ça, c'est nouveau.
Merci beaucoup, Élise Lucet.
Merci à vous.
Envoyé spécial, c'est donc tous les jeudis 21h05 sur France 2 quand il n'y a pas de débat politique,
oui.
Quand il n'y a pas de retransmission sportive.
Oui.
Mais ça veut dire que ce jeudi, il y aura donc envoyé spécial.
Absolument.
Des enquêtes, des reportages et une formule de plus en plus ancrée dans le quotidien, au plus proche des préoccupations de chacun. Il y a aussi Cache Investigation, prochaine émission. Suspense, vous serez forcément au courant, mais suspense. Cette émission, si vous êtes arrivé un peu tard, elle est disponible en replay. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast francebleu.fr. Passez une bonne soirée, on se retrouve samedi prochain. Prenez soin de vous, salut.
Merci à vous.